tronque leur image. Le plus parfait des parfaits camouflage. Le trompe-l'œil épique, l'exacte réplique. Au carbone 14, certifié authentique. Mon vin mesure cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir à tous, auditeurs de Radio Canu. Il est 9h passé d'une petite dizaine de minutes. Et donc, c'est l'émission Angle Mort qui débute, comme tous les dimanches, de 9h à 10h. Émission de critique sociale. Et donc, au menu de ce soir, je n'en dis pas plus. Je vais laisser Fabien nous expliquer cela.
Au menu de ce soir, il y aura une chronique zombie. Je pensais que ce serait la dernière. Finalement, j'ai pas assez travaillé dans le week-end, alors je serai obligé d'en faire une dernière un peu plus tard. C'est une chronique un peu ambitieuse, une chronique qui va essayer de vous convaincre que vous êtes toutes et tous des anarchistes, mais que vous ne le savez pas. Et donc on va essayer de le démontrer grâce aux zombies. Et grâce à leur organisation qu'on va voir qui est plutôt auto-organisée.
Ils ont bon dos les zombies quoi.
Ils ont bon dos et ils me permettent de dire pas mal de choses quand même, c'est bien. Voilà, donc j'en dis pas plus et après la première, voire les deux premières chansons, musiques, ouais. On enchaînera sur les chroniques, mais je pense que vous aurez peut-être d'autres choses à dire, non ?
Oui, peut-être.
On verra, on se laissera inspirer par le moment. Donc pour commencer, donc une chanson de Frustration, c'est ça le...
Non, Frustration.
Frustration.
Pour parisien.
Issue de l'album Uncivilized et qui s'appelle le titre Worries. Donc Radio Canus 102.2, émission Angle Mort.
Si nous ne sommes pas en phase, voici mes papiers, relevez mon adresse et mon place et arrêtez de me palper à la moindre occasion, car à la base ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche un...
Voilà, toujours à l'écoute de Radio Canu sur Angle Mort. Donc c'était pas la bonne chanson qu'on a lancée et je pense que ce soir ça va être à chaque fois un petit peu le hasard. Ça sera une programmation surréaliste. Donc c'était en fait Cannibal et Vainé avec la chanson. Voilà, une chanson. Kunlum Mankwalesh, je dirais. Et on commence donc cette chronique zombie avec Fabien.
Oui,
voilà.
C'est à moi.
Alors Fabien qui nous promet que c'est la dernière, mais pas tout à fait.
Oui.
Et que il va nous démontrer comment on est tous et toutes des anarchistes sans le savoir. Ce que je me demande, c'est si on le sait, qu'est-ce qui se passe ?
Alors tout de suite, tu me poses une question alors que j'ai pas commencé.
Pardon, oui, pardon.
Tu veux me déstabiliser ?
C'est pas faux. Allez, j'arrête.
Bon, alors, je sais pas quelle serait la conséquence. C'est pas peut-être qu'on devienne tous anarchistes en fait explicitement.
Ah.
Je l'espère.
Mais alors, ça serait le chaos.
Eh ben, on en parlera plus tard. oui. Alors, petit rappel. De ce dont j'ai pu parler jusqu'à présent. Alors, les zombies, vous l'avez compris, si vous avez suivi un petit peu ces chroniques, c'était un bon prétexte pour aborder beaucoup de choses, surtout pour aborder des choses qui sont pas perceptibles, qui sont inconscientes. Et donc, on a vu, par exemple, que les zombies, ils n'avaient pas de qualia. Alors, je ne reviendrai pas sur cette notion. Maintenant, vous savez toutes et tous ce que c'est. Je vous ferai une petite interrogation.
Alors là, on regarde nos pieds.
On a vu qu'ils étaient inconscients. On a vu même que c'était des esclaves. Chronique sur la sorcellerie créole. Et puis, on avait vu aussi qu'ils étaient très majoritaires dans la pensée. Et aujourd'hui, ce que je propose, c'est faire une hypothèse peu audacieuse, c'est de vous montrer en fait que ces zombies, ils sont auto-organisés. Ce qui sous-tendrait, vu qu'ils sont majoritaires dans la pensée, que on est régi par une horde de zombies autogérés. Mm-hmm. Et ce qui veut dire qu'on aurait un fonctionnement plutôt de type libertaire.
Mm-hmm. Alors, je prends des notes.
Prends des notes, parce que je ferai le pont à la fin de la chronique, justement, avec une possible généralisation en fait de ces concepts que je vais aborder aujourd'hui à la sociologie et à la politique. Et comme je le disais en introduction, j'ai pas suffisamment travaillé ce week-end sur cette chronique, et du coup, je m'interromprai juste au moment où ça deviendra intéressant. Et donc, on parlera pas de sociologie encore aujourd'hui. J'y arrive pas, je suis désolé. Eric, je sais que tu m'as embauché un petit peu pour ça, pour parler de sociologie.
Non, mais je préfère m'en charger moi-même.
Bon, ok. Ceci est dit. Bon, alors, cette chronique, là je meuble un petit peu, mais... On y arrive à cette chronique. Donc l'hypothèse un petit peu audacieuse, je disais que c'était que ces zombies sont auto-organisés. Et pour comprendre cela, je vais devoir vous parler un petit peu de biologie, très rapidement, hein, et de vous parler des cellules qui sont responsables de la pensée, qu'elles soient conscientes et inconscientes, et... On va faire ça sous forme un petit peu d'interrogation aujourd'hui. C'est quoi ces cellules qui nous permettent la pensée ?
Les neurones ?
Oui, les neurones. Les neurones. Et donc, on va voir que c'est en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, ces neurones, qu'on va voir que les organisations collectives expliquent beaucoup mieux le fonctionnement cérébral que les organisations hiérarchiques. Mm-hmm. Ça va, je vous ai pas perdu encore ?
Non, j'ai pas écouté, pardon.
Oui. donc, je disais qu'en fait, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent, ces neurones, les uns avec les autres, et on va voir que ce qui est le plus viable, en fait, ce sont les organisations de type collective.
D'accord.
Et en par, fait, oui. Par collectif, du coup, tu sous-entends plus horizontal, quoi, puisque tu opposes collectif à hiérarchique.
Exactement,
c'est ça.
Exactement. C'est-à-dire qu'on va voir que finalement, c'est la coordination dans le fonctionnement des neurones qui permet l'émergence d'une représentation. Je vais venir tranquillement à cette notion. Bon, je vais peut-être pas griller toutes mes cartouches parce que je vais plus rien avoir à dire après. Mais c'est qu'en fait, dans tout pas forcément en fait en biologie, mais dans d'autres disciplines, quand on s'intéresse au système, c'est-à-dire à un ensemble de composants qui interagissent, eh bien, toujours se pose la question de comment ils interagissent et comment ce système fonctionne par lui-même et comment ce système va interagir aussi avec d'autres systèmes. Et donc, souvent, s'opposent deux façons de voir les choses. Une qui est celle qui est très dominante, en fait, dans les sciences sociales, dans les sciences dures, qui est une organisation de type hiérarchique, où il faut toujours qu'il y ait un boss, un dieu, qui vienne un petit peu gérer tout ça, qui est un peu le chef d'orchestre de l'ensemble de ces systèmes. Et rarement, en fait, les théories se reposent sur des systèmes beaucoup plus horizontaux, dont le fonctionnement est beaucoup plus collectif. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, en biologie, notamment en neurophysiologie, donc l'étude des neurones, eh bien, en fait, le codage hiérarchique semble pas très viable, c'est-à-dire que l'organisation ne semble pas être de type hiérarchique. Mais bon, je vais y venir. Alors, pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple. C'est un exemple du fonctionnement neuronal. Je vous disais donc qu'il fallait qu'on parle des neurones. Et une des propriétés des neurones, c'est qu'on sait qu'ils sont fortement spécialisés d'un point de vue fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un neurone, en fait, il ne sert pas à tout et n'importe quoi. Il a une tâche qui lui est attribuée. Non, là encore, je parle de façon hiérarchique. Hein, vous voyez, comme même dans notre façon de nous exprimer, on parle toujours comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose au-dessus. Mais il a simplement en fait un rôle dans le système nerveux, tout simplement parce qu'il a une place particulière, parce qu'il se trouve à un endroit et pas à un autre. Et donc, comme nous sommes des êtres qui percevons, par exemple, eh bien, l'information visuelle, par exemple, va passer par la rétine, et puis tous les neurones qui sont liés à ces neurones de la rétine vont être activés. Donc, c'est parce qu'ils sont en connexion avec ces neurones de la rétine que, du coup, ils sont impliqués dans une fonction visuelle, tout D'accord. simplement.
Et est-ce que ça veut dire, Fabien, qu'un neurone, il peut changer de place? Ou est-ce qu'il est condamné toute sa vie à la même action spécialisée?
Il est condamné à part dans certaines situations, par exemple des situations lésionnelles, où il peut y avoir en fait des réorganisations des neurones, surtout de ce qu'on appelle leur arborisation dendritique, c'est-à-dire des connexions qu'ils vont réaliser avec les autres neurones. Et ça se transforme en un cours de biologie.
Oui, c'est intéressant.
Et ils vont pouvoir, en fait, à ce moment-là, en fait, servir, entre guillemets, à autre chose. Par exemple, c'est le cas des personnes qui deviennent aveugles. Une cécité, eh bien, le cortex qui sert à la vision, ce qu'on appelle le cortex visuel, eh bien, peut servir plus tard, en fait, après une réorganisation neuronale, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, eh bien, va pouvoir entraîner une modification du fonctionnement de ces neurones et ils vont servir, D'accord. par exemple, à des aspects somesthésiques, tactiles, des choses comme ça.
D'accord.
Qu'est-ce qu'on brode aujourd'hui?
Mais non, mais j'essayais de voir, parce que tu finalement tu fais une espèce de parallèle entre l'activité des neurones, leur place, mais le fait qu'ils ont une place que tu disais, une fonction particulière liée à la place qu'on leur attribue. Et je voulais voir s'il y avait un potentiel révolutionnaire dans cette activité, c'est-à-dire que les places pouvaient être occupées par d'autres neurones à tout moment. Etc.
Et ben, je te dirais que comme dans toute organisation sociale, c'est pas tellement la place que l'individu occupe qui va donner un potentiel révolutionnaire, mais plutôt son interaction avec les autres. C'est-à-dire que la révolution, on va jamais la faire tout seul. On a besoin de se lier. Et justement, ce dont je vais parler, c'est de l'organisation de ces neurones. Et c'est le fait que ces neurones, ils sont... T'essayes de me piéger?
Pas du tout.
C'est le fait que ces neurones, ils sont organisés d'une certaine façon, qu'un potentiel révolutionnaire, comme tu dis, est possible. Non, je ne vais pas parler de révolution, mais en tout cas d'organisation bien particulière.
Ok.
Donc, je vous disais que les neurones sont spécialisés fonctionnellement, ils ont une fonction particulière. On a des neurones qui vont servir à la vision, d'autres qui vont servir à l'audition, d'autres à la motricité, etc., etc. Et on a même en fait des neurones qui sont hyper spécialisés. Par exemple, on a des neurones qui vont être spécialisés pour traiter l'information de couleur. D'autres qui vont être spécialisés pour traiter l'information de la forme des objets visuels. Et on a des neurones vraiment très complexes. On a découvert, il y a pas mal d'années de ça, je pense que ça doit faire peut-être 40 ans, qu'il existait en fait des neurones qui étaient spécialisés au traitement des visages. On a des neurones où ils sont spécialisés pour répondre et pour répondre à des visages. C'est-à-dire que si on les enregistre, on enregistre leur activité, bah ils répondent et ils ont une activité que lorsqu'il y a un visage qui est présenté à l'animal ou à... Enfin, en tout cas, ce genre d'expérience, c'est plutôt des animaux. C'est quand l'animal revoit un visage d'un de ses congénères, eh bien, ses neurones vont se mettre à s'activer et ils ne vont pas du tout s'activer pour d'autres stimulations visuelles, pour d'autres types de stimulations. Donc des neurones qui sont hyper spécialisés et en fait ces neurones se regroupent, enfin ils sont regroupés en ce qu'on appelle des structures cérébrales qui sont donc spécialisées, voire même hyper spécialisées, parce que le neurone qui répond à des visages, eh bien, il se retrouve avec d'autres neurones qui sont juste à côté, qui ont eux cette spécialisation autour des visages et puis vous se répartissez un petit peu le travail. Alors, ce que je suis en train de vous décrire, c'est le fait... il ne faut pas s'arrêter à cette description, parce que si on s'arrêtait à cette description, on aurait ce qu'on appelle une vision très localisationniste du cerveau. Ça veut dire qu'en fait, comme on faisait au début du XXe siècle, voire même avant, on supposait que chaque structure cérébrale avait une fonction bien particulière. Ce qui est vrai, mais qui n'est qu'une vision très partielle, en fait, de la réalité. Donc, les structures cérébrales sont spécialisées, et comme je vous le disais, il y a des structures qui vont traiter l'information de couleur, d'autres qui vont traiter l'information de forme, d'autres qui vont traiter l'information de mouvement, tout ce que vous voulez. Enfin, différents, non pas tout ce que vous voulez, mais un certain nombre de paramètres. Et ces structures, elles sont réparties dans le cerveau. Elles ne sont pas au même endroit, d'accord ? Elles sont réparties à différents endroits. Mmh. Et donc se pose un gros problème, un problème de compréhension du fonctionnement du cerveau, qui est ce qu'on appelle le problème du liage informationnel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va essayer de se poser la question de comment va pouvoir émerger une représentation alors que les structures cérébrales sont éloignées. Je vais vous le dire de façon peut-être plus détaillée, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voyez une information visuelle, vous voyez, comme par hasard, une bouteille à moitié remplie sur la table de Radio Canu.
C'est un peu toujours le même exemple. Hein,
oui, tout à fait. Et, et cette table... Alors toi, de ta position, Eric, tu la vois à une certaine distance de toi, tu la vois donc à un endroit particulier, d'accord, de la place où tu es, loin.
Un peu trop loin.
Tu lui vois une forme, tu lui vois une couleur, etc., etc. Mm-hmm. Et donc, ce que je disais avant, c'est que différentes structures vont traiter ces informations différentes. Mm-hmm. Donc, mais pourtant, toi, la représentation que tu as de cette bouteille, c'est une représentation unifiée. C'est-à-dire que tu vois une bouteille avec une couleur, une forme, à une position. Tu vois pas d'un côté la forme, de l'autre côté la couleur. Non, tu as une représentation unifiée. Sauf que se pose le problème de... On voit qu'il y a des structures qui vont être spécialisées pour chacun de ces paramètres. Comment se réunit l'information pour qu'on ait une vision unifiée de cet objet. Donc ça, c'est un gros problème et qui a fait couler énormément d'encre, bien évidemment, parce que justement, deux façons de voir les choses se sont opposées pendant très longtemps. C'est justement le codage hiérarchique et le codage de population. Et très longtemps, en fait, on a considéré qu'il y avait un codage de type hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a ces structures qui vont traiter ces différentes caractéristiques, et toutes ces structures vont envoyer une information à une seule structure, voire même à une même cellule, et cette cellule va faire la synthèse. Donc ça, c'était l'idée qu'il y avait ce qu'on appelle une cellule gnostique, c'est-à-dire une cellule qui a la connaissance, qui reçoit toute l'information. Et si on a une représentation unifiée de cette bouteille, c'est parce qu'il y a un neurone qui s'active à un moment donné. L'autre hypothèse, c'est le codage de population. Le codage de population, si je reprends mon exemple de ces structures qui vont coder les différentes caractéristiques de la stimulation visuelle,
qu'on appelle d'ailleurs le codage du peuple des fois, ou le codage prolétarien.
Exactement. Et bien ce codage prolétarien, il se fait parce que toutes les structures s'activent de façon collective au même moment. Et l'idée sous-jacente à cette hypothèse, c'est que c'est l'activité collective des neurones qui fait émerger la représentation. Et qu'il n'y a pas besoin de cellules gnostiques pour voir émerger cette représentation. Et donc je vous ai donné ces deux hypothèses, et ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause, afin que vous réfléchissiez à quelle est la meilleure hypothèse. Bon, bien, je suis un petit peu trahi, monsieur. Donc, vous verrez que je vais plutôt m'orienter vers une des deux hypothèses, mais je pense que c'est le bon moment de faire une petite pause.
Une petite pause, donc on ne peut pas annoncer ce qu'on va lancer parce qu'il y a des chances que ce ne soit pas du tout. Voilà. Donc, on lance quelque chose et on verra ce que c'est. Bonjour à l'écoute de Radio Kenu. Donc on vient de s'écouter Joe Lally avec What Makes You, issu de merveilleux album Why Should I Get Used to It. Et on poursuit sur ce petit, cette chronique court zombie. Voilà.
Zombie auto-organisé, oui. Et donc je vous. Oui, il va falloir quand même que j'accélère un petit peu, hein, si je veux terminer dans l'heure. Donc j'avais terminé avec cette interrogation entre un codage hiérarchique et un codage de population. Bien évidemment, vous aurez compris que c'est le codage de population qui est le plus viable, qui est le plus réaliste. Alors, je ne reviendrai pas sur, sur le pourquoi, en fait, il est plus réaliste, mais sachez que les résultats des 20 dernières années, en fait, suggèrent de plus en plus que c'est le codage de population qui existe, et on a même en fait des preuves expérimentales en fait que ces neurones en fait ils parlent de façon synchronisée en fait, et cette façon de parler de façon synchronisée qui permettrait donc l'émergence de la conscience. Tout ça, ça nous dit en fait que les neurones ils s'organisent en fait en réseau, et ce serait donc l'activation de ces réseaux qui participent au traitement de l'information, qui suffirait en fait à faire émerger les représentations. Et donc un neurone peut appartenir bien évidemment à plusieurs réseaux, hein, il n'est pas cantonné à un seul réseau, et en plus ce réseau, il peut évoluer au cours du temps. C'est-à-dire que le nombre de neurones au sein de ce réseau peut évoluer, et même les connexions à l'intérieur de ce réseau, les connexions au sein de ce réseau peuvent se modifier. Et d'ailleurs, c'est ça qui est responsable de la mémoire. C'est-à-dire que si vous êtes capable en fait d'apprendre des choses, c'est parce que ces réseaux se réorganisent sans cesse. Ce qu'on appelle en fait plus communément la plasticité cérébrale. Peut-être pas plus communément, mais bon, peu importe.
Entre nous, quoi.
Entre nous, on va dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est même que certaines théories de la conscience proposent que la conscience va émerger quand le réseau va être suffisamment activé. Et lorsque l'information qu'il traite, ces réseaux, va devenir accessible aux autres réseaux. C'est-à-dire que donc, imaginez en fait qu'il y a plein de réseaux dans le cerveau, et ces réseaux ils sont spécialisés pour faire des choses. Par exemple, le traitement visuel dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et donc, bien évidemment, quand on est dans un environnement, on est plutôt face à un environnement qui est très riche, plein de stimulation visuelle, auditive, somesthésique, olfactive, gustative, tout ce que vous voulez. On va penser à plein de choses en même temps, on va planifier plein de choses pour le court terme ou pour le long terme. Et donc, il y a plein de réseaux qui parlent en même temps. Et donc, l'une des théories de la conscience, c'est ça, c'est d'expliquer en fait qu'il faudrait que ces réseaux soient suffisamment activés et que l'information qui est traitée par ce réseau devienne accessible aux autres réseaux. Et ça serait... la possibilité, c'est ça qui rendrait la possibilité de faire émerger à la conscience l'information. Alors je vous prends un exemple, toujours avec l'information visuelle.
Ah, donc la bière.
Donc toujours la bière qui a changé de place, mais qui s'est pas rapprochée.
Non, qui a même eu tendance
à s'éloigner.
Ouais.
Et bien par exemple, cette bière, elle est... T'es en train de la voir, Eric?
Oui, bah, avec à force envie. De la voir, j'aimerais quand même pouvoir.
Avec envie. Et cette information visuelle, elle est traitée donc par un réseau. Mm. Un réseau de neurones. D'accord? Mm. Et ce que propose en fait cette théorie, c'est le fait que ce réseau qui te permet de traiter l'information visuelle est suffisamment actif, qui lui permet en fait de rentrer dans un ensemble de réseaux, et notamment que cette information visuelle devient accessible, c'est ça qui est important, c'est l'aspect d'accessibilité, devient accessible aux autres réseaux, et notamment par exemple à ton réseau de langage. Mmh. Donc du coup tu vas pouvoir verbaliser le fait que tu es en train de voir une information visuelle, destinée, enfin pas destinée, mais qui est une information sur la bière.
C'est-à-dire, en gros, la différence, il y a des choses qu'on voit sans les voir, finalement, et c'est là qu'on va définir la conscience, il y a des choses qu'on va se focaliser dessus, et qu'on va...
C'est ça.
On va,
voilà, okay. Et par exemple, quand tu es en train de manipuler tes boutons de la platine...
Avec brio,
bien évidemment, eh bien... Tu vois en vision périphérique cette bière, tu ne l'as pas oubliée, bien évidemment. Tu la vois, cette information, oui. Mais tu es concentré à autre chose. Mm-mm. Donc, ta priorité, c'est tes manettes, c'est de faire en sorte que ça accroche pas les oreilles et que ça coule de façon.
C'est ma priorité.
Possible. Mais en même temps, tu la vois en information périphérique. Et c'est même, peut-être même de façon inconsciente. Et c'est ça qui ferait la différence justement entre un traitement conscient et un traitement inconscient de l'information. C'est que cette information, en fait, elle est toujours accessible à toi, mais de façon périphérique, secondaire. Donc tu vas la traiter de façon inconsciente. Et pourquoi elle est traitée de façon inconsciente ? Parce que tu ne portes pas ton attention dessus. Donc du coup, ce réseau, il n'est pas suffisamment activé pour que tu puisses verbaliser et donc rapporter que tu as vu cette pierre. Donc... on a vu cette organisation réseau est très importante et cette organisation en réseau de neurones nous pousse donc à explorer le cerveau comme étant un ensemble de systèmes dont les composants varient sous l'influence de leur interaction. D'accord ? Un réseau il est constitué de composants, de neurones, donc c'est un système, et ces neurones vont entretenir des liens entre eux, d'interaction. Et donc l'intelligence artificielle et le connexionnisme, notamment, s'intéressent beaucoup à ces organisations et elles essayent de modéliser le fonctionnement cérébral justement par des approches mathématiques qui vont essayer donc de modéliser au mieux, de mimer au mieux en fait ces organisations. Alors parmi les différents modèles qui existent, il y en a certains qui utilisent ce qu'on appelle des systèmes dynamiques ou des équations différentielles et qui vont prendre en compte justement les composants du système et leur interaction mutuelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en serais bien incapable de l'explication de ces systèmes dynamiques ou ces équations différentielles, mais c'est simplement en fait des règles mathématiques qui nous permettent en fait de modéliser au mieux en fait ces interactions. Et notamment l'ensemble de ces un certain nombre de ces modèles vont rendre compte d'une certaine autonomie en fait des systèmes et une grande capacité en fait d'auto-organisation des réseaux de neurones. Et Francisco Varela qui est décédé s'est beaucoup intéressé à cette question. Et lui s'interrogeait sur l'identité de l'être vivant et la capacité de celui-ci, en fait, à la maintenir à travers des opérations qui sont produites par le vivant lui-même. C'est-à-dire à essayer de comprendre comment ces systèmes ils sont organisés et comment ils peuvent, à travers un certain nombre d'opérations, en fait, qui sont propres au système, continuer finalement à exister, pour faire très simple. Et sa thèse fondamentale, c'est que tout système autonome est opérationnellement clos. C'est ce qu'il appelle en fait un système autopoïétique, c'est-à-dire qu'il va produire sa propre identité. En fait, pour lui, ces systèmes sont autonomes, en ce sens qu'ils subordonnent en fait tout changement au maintien de l'organisation, même s'ils doivent en être concrètement modifiés. Donc c'est réfléchir en fait sur une organisation. On pourrait prendre par exemple l'exemple de la cellule qui va donc avoir une frontière par sa membrane, et cette cellule va avoir une certaine autonomie, d'accord, et une certaine forme d'auto-organisation, ce qui va pouvoir donc lui permettre en fait d'avoir une fonction particulière. On pourrait donc voir la cellule comme le neurone qui va avoir une fonction particulière et va être autonome dans le sens qu'elle va piocher de l'extérieur ce dont elle a besoin pour se régénérer, mais quand même maintenir une organisation et se modifier si c'est nécessaire, mais avoir sa propre capacité finalement de fonction, d'avoir une opération bien particulière. J'en ai terminé. Vous êtes très déçus.
Ah bah je m'en rends bien compte. On attendait la dimension politique, voilà, et critique, alors, de tout
c'est
ça.
C'est vrai que, en fait, de vous parler donc de ces neurones qui s'auto-organisent, qui ont une certaine autonomie de fonctionnement, ça pousse en fait à extrapoler tout ça et il y aurait même qu'un pas en fait à la généralisation de cette approche à d'autres systèmes que les réseaux neuronaux. Et notamment, on pense à la sociologie et à la politique. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'en ai parlé, justement pour pouvoir arriver jusque-là. Sauf que, vous l'avez compris, je vais encore me dérober, et on en parlera la prochaine fois. Ce dont je vous parlerai en fait la prochaine fois, c'est de vous rapporter Autant que c'est possible, parce que c'est assez compliqué, des réflexions qui ont été menées en fait par un ensemble de chercheurs de différentes disciplines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment transdisciplinaire. Il y avait aussi bien des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des sociologues, des philosophes. Il n'y avait pas de politiciens. Mais c'est pas une, c'est pas un métier.
Non,
c'est enfin, pas c'est un métier. Donc ils se sont réunis, je crois que c'était en 1981, dans un colloque qui s'appelle le colloque de Sorisy. Et tu connais ?
Oui, oui.
Ah bah tu vas pouvoir nous en parler.
Il y en a tous les ans. Hein,
il y en a tous les ans. Oui. Et celui-ci avait pour titre l'auto-organisation de la physique à la politique. Mmh. Et donc je vous rapporterai en fait un certain nombre de débats et de présentations comme Isabelle Stengers, Francisco Varela et d'autres qui sont intervenus hein, à cette donc c'était vraiment de très haut niveau, c'est-à-dire que les mathématiciens présentent leur théorie mathématique avec les équations, etc. Donc bien évidemment, je ne vous rapporterai pas ça, mais j'essaierai justement de rapporter en fait les débats qu'il y a eu et en fait les enjeux qu'il y avait autour de cette question et surtout de la possibilité ou pas d'extrapoler justement. Est-ce qu'on peut extrapoler ? Parce que là, je vous ai parlé de la biologie, mais en fait, c'est en physique surtout qu'on voit beaucoup de systèmes qui vont s'auto-organiser, qui vont être autonomes et qui vont créer des choses. Et donc en mathématiques, il y a beaucoup de règles mathématiques qui vont pouvoir explorer. Je parlais tout à l'heure des systèmes dynamiques, des équations différentielles qui vont pouvoir explorer, analyser en fait ces composants qui évoluent, qui ont des interactions. Et donc ils se sont réunis justement pour essayer de confronter leurs différentes hypothèses et essayer de voir si, bien évidemment, on ne va pas. La conclusion, ça ne va pas être de dire on peut généraliser ce qui se passe au niveau de la physique hein, d'un point de vue sociologique, mais au moins de confronter en fait tous ces concepts, concepts de système, les concepts d'auto-organisation tout simplement, et essayer de voir quels sont les ponts qui peuvent être faits entre les disciplines. Voilà.
Oui, parce que si je peux, enfin c'est vrai que moi, tu as dit que tu n'en parlerais pas, mais j'engage quand même le. Bah, je suis assez j'ai beaucoup de doutes hein, sur la possibilité d'extrapoler en fait, non pas parce que je pense pas que un système social pourrait s'auto-organiser, pas du tout, mais en fait ce qui m'intéresse là-dedans surtout dans ton propos c'est de le contrepoint par rapport à la vision qui est toujours la même où la société va penser le corps, la nature, la biologie, etc. en fonction de schèmes hiérarchiques, etc. Et on se rend compte qu'en fait c'est pas le cas. Mais après c'est pas parce que le corps fonctionne d'une manière que la société. Enfin, en fait, le problème de vouloir extrapoler, c'est la société pourrait fonctionner de toutes les manières possibles. La société par définition. Et quand on va vouloir ramener à la nature, oui mais vous voyez bien, la nature elle est comme ça, donc on va vouloir la naturaliser, vouloir empêcher n'importe quel changement, dans un sens comme de l'autre. Et quand on écoute ton discours, par exemple, il y a un moment, tu parles, les cellules sont spécialisées, voilà, donc on pourrait du coup dire, oui mais alors la société, pour un fonctionnement optimum, étant donné qu'on voit bien comment le cerveau, comment ça marche, il faudrait que ce soit spécialisé, voire hyper spécialisé. Et en fait non, enfin la société, elle décide, elle peut fonctionner de manière très très différente, de manière spécialisée ou non spécialisée, de manière hiérarchique ou non hiérarchique, et du coup voilà, c'est ça qui faut faire attention. Et je pense que dans ce genre de lieu comme colloque de Sérisy, ils ont particulièrement tendance à vouloir, parce que ça peut paraître chic, ça voilà, et moi j'ai des doutes quand même sur cette.
D'accord, et bien j'essaie de te convaincre, ça va cher Eric, je pense qu'on va faire une chronique un peu facile, ça sera intéressant.
C'est une promesse d'émission à venir vivante.
Je veux quand même répondre à ton commentaire, c'est-à-dire que...
Mais je ne te permets pas de répondre à mon commentaire.
Voilà, système hiérarchique, justement. Non, je veux répondre à l'aspect de spécialisation dont tu parlais, je pense que tu t'es un petit peu emballé, on aurait dit un peu un...
À quoi ?
Pas faire de politique, c'est ça. Non, je pense que si tu réagis comme ça, c'est aussi parce que parce que j'ai pas donné toutes les informations. C'est-à-dire que, bien évidemment, pour expliquer mon propos, j'ai vulgarisé, en fait. J'ai vulgarisé et pour faire comprendre, on est obligé en fait de faire des cases bien claires, bien délimitées. Et notamment l'aspect de spécialisation, en fait, il n'est pas exclusif, mais loin de là, en fait. Les neurones, ils ont en fait des maximums. Ils ont des ils ont des activités qui vont être qui vont correspondre à une fonction en maximum, mais ils peuvent être impliqués en fait dans d'autres fonctions alternatives et ils ne sont pas en fait ils n'ont pas une fonction unique qui restera toute leur vie. C'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus évolutif. Et bien sûr, là, c'était caricatural ce que j'ai dit, mais c'est pour mieux expliquer. Donc, non, ça ressemble un petit peu, en fait, on pourrait l'extrapoler à l'être humain.
Ouais, mais pour repréciser mon propos, c'est qu'on peut l'extrapoler métaphoriquement. En fait, le truc, c'est que ce qui me gêne quand on va vouloir extrapoler, c'est que la nature, par définition, la change pas. Tu vois, la nature, c'est quelque chose qui est stable, qui est un truc établi. Enfin, le cerveau va fonctionner d'une manière, alors que l'organisation sociale, on peut la changer tant qu'on veut. Et du coup, souvent, la nature a été utilisée par les puissants. Mais si, je t'assure. A été utilisé comme un argument pour dire mais non, on peut pas le faire, c'est pas dans la nature de l'homme, c'est pas dans la nature de l'homme de faire ça. Donc c'est un argument à contre donc c'est bien de dire qu'en fait la nature elle-même fonctionne de manière auto-organisée, n'est pas du tout hiérarchique, etc. Mais ça peut être un argument à double tranchant que de vouloir utiliser ça pour dire que la société pourrait être pareille. Enfin, la nature pourrait fonctionner n'importe comment elle veut, la société elle pourrait être auto-organisée, autogérée. C'est sur un autre. Donc après, on peut s'inspirer de ces réflexions, voilà, pour dire tiens, comment faire un système, voilà. Mais l'analogie, il faut y prendre garde, je pense.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Écoute, je me suis pas encore emballé, hein, justement, sur cette analogie. Et je pense que c'est ce dont on parlera la prochaine fois. De faire attention de pas faire un glissement en fait de ces concepts et de pas prôner une organisation particulière parce que la physique s'organise de telle façon. C'est pas du tout ça l'objet. Ce que je veux dire et ce que je pense que j'essaierai d'expliquer la prochaine fois beaucoup mieux, c'est que c'est intéressant en fait de voir que il existe des notions comme les systèmes qui sont constitués de différents éléments composants qui ont des interactions et que cette notion de système on peut la voir à plusieurs niveaux, d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue thermodynamique, d'un point de vue de la génétique, d'un point de vue social et d'autres. On peut voir en fait comment des règles vont s'installer, comment on peut mieux comprendre finalement le monde. Après, ça ne veut pas dire que la règle sera applicable à tous les niveaux, mais c'est une certaine façon de réfléchir en fait à l'organisation du monde. Je dis pas qu'on va y révéler une vérité immuable. C'est pas du tout ça, c'est aussi d'essayer de réfléchir à ce type d'organisation pour aussi aller plus loin en fait, et c'est d'ailleurs l'introduction de ce colloque, aller un peu plus loin en fait que cet esprit dominant qui nous dit toujours en fait qu'il y a une commande. C'est vraiment le point de vue dominant, quoi. Il y a deux types de façons de voir comment les choses s'organisent. Soit il y a un contrôle, une commande, une hiérarchie, soit il y a une autonomie. Et ça se retrouve à tous les niveaux disciplinaires. Et c'est clair que le niveau dominant, le point de vue dominant, c'est la commande. C'est l'instruction qui est faite par un créateur, un ingénieur, tu vois, hein, quelque chose qui est au-delà. Et l'autre position, elle est, qui est réprimée sans cesse, c'est cette position un peu plus transversale d'horizontalité. Mmh. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse, en fait, c'est de la façon de penser, en fait. C'est pas seulement on va essayer absolument de faire un lien entre tout ça. On veut absolument utiliser des outils mathématiques qui vont servir à la sociologie. Je défendrai jamais ça. D'ailleurs, je suis ni mathématicien ni sociologue, donc je serais bien emmerdé. Mais c'est de dire, voilà, qu'on peut réfléchir différemment et que cette façon de voir les choses qui est sous la forme de l'autonomie et que de cette autonomie peut émerger des choses. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment ça fondamentalement. C'est est-ce que la nature, l'humain est guidé en fait par des forces divines ou des forces je sais pas quoi qui va expliquer en fait toutes les causalités. Ou est-ce qu'on peut faire un renversement de perspective où on va plutôt voir les choses en fait du bas où les éléments interagissent et de cette interaction vont émerger en fait des choses. Et ça, je pense que c'est applicable à tous les niveaux et c'est ça qui est vraiment intéressant, je crois. C'est de renverser ce paradigme très dominant de la hiérarchie, quoi. Et c'est en ça qu'il y a des parallèles, c'est-à-dire que dans toutes les disciplines, en fait, il y a une façon de voir qui est simplement le reflet de notre société. On est dans une société très hiérarchisée, très dominante. Eh bien, quand on est scientifique, qu'on fait de la biologie, ben on va partir presque du postulat en fait que tout est hiérarchisé. Et c'est pour ça que ces théories ont eu presse pendant très longtemps, parce que justement elles nous parlaient, parce que notre société elle fonctionnait de la même façon. Et donc je trouve que c'est bien de pouvoir renverser ce type de paradigme à tous les niveaux.
Quoi. Ouais. D'accord. Bon, est-ce qu'on a...
J'ai convaincu le chef.
Là, ça dépend. Enfin, on aura l'occasion d'en discuter tout ça.
Ouais, mais bien sûr.
Voilà. Et mais justement, moi, je pensais finir par une chanson plutôt bien trouvée, à savoir "À bas la hiérarchie". On l'a déjà passé, mais là, on pouvait.
Oui,
on était quand même obligé. Et donc du groupe Stupéflip. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Et donc on vous dit dorénavant, d'ores et déjà, à la semaine prochaine. Alors j'annonce, j'espère ne pas faire de faux espoirs, mais normalement la semaine prochaine devrait y avoir, si tout s'est bien passé, si l'enregistrement s'est bien passé, une émission sur les Black Blocs, à partir d'un auteur qui s'appelle Francis Dupuis d'Éric, qui a fait un livre sur les Black Blocs qui date déjà un petit peu, qui a d'abord été édité aux Ateliers de création libertaire, qui a été réédité depuis avec des ajouts. Donc voilà, normalement la semaine prochaine, il y aura tout ou partie d'une conférence ou d'une présentation de ce livre qu'il va donner. Voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine si tout se passe bien. Et puis on vous laisse avec la causerie sur Radio Canu.
Voilà, salut.
Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure.
Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui.
Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent. Allô?
Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas.
C'est tout ce que vous trouvez à dire.
Ouais. Allez vous faire foutre.
À balayer, merci.